marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Voilà, on va donc poser quelques jalons pour une lecture globale de l'Épître aux Galates. Une lecture globale, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on voit les choses d'un peu haut, on ne rentre pas dans le détail, on ne va peut-être pas donner un sens précis à tous les mots. Il y aura certains mots qu'on définira, et si par exemple il y a des mots que vous souhaitez qu'on définisse, et la liberté peut-être plutôt à la fin de le noter et d'en parler pour qu'on puisse le reprendre. C'est dans cette perspective que j'ai mis ici un commentaire de l'Épître aux Galates. Quelque chose qui est particulier, qui est général. Et il me semble que le verset 4 de cette épître, « Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte de nous retirer du présent siècle », nous donne déjà quelque chose d'important par rapport à ce thème de la liberté qu'on va voir dans Galates. « Nous retirer du présent siècle ». Le présent siècle, c'est l'esprit du monde, c'est cette faculté que le monde, c'est le système qui est organisé contre Dieu et duquel Satan est le chef. Et être dans le présent siècle, vivre dans le présent siècle, comme Paul le dit en le reprochant dans l'Épître à Timothée à quelqu'un, je ne me souviens plus exactement à qui, Démas peut-être, vivre dans le présent siècle, c'est vivre dans l'esprit du monde. Ce n'est pas être retiré du présent siècle, ce n'est pas être retiré de la société. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a aimé la société, mais Dieu nous appelle à être retiré du présent siècle, c'est-à-dire à être retiré de l'esprit du monde. Et être retiré de l'esprit du monde, je crois que c'est vraiment ça, quelque chose de fondamental pour être libre et pour pouvoir vivre de bonne manière. Alors, voilà une image qui, me semble-t-il, est assez particulière de l'Épître aux Galates, parce que cette fleur, elle est belle et elle est libre, parce qu'elle est, elle-même. Elle est multiple, il y a plusieurs pétales, elle est riche de ses différentes couleurs, elle est utile, puisqu'en fait, un insecte vient, un bourdon peut-être, vient prendre du pollen, elle est utile, et entrer dans la liberté, c'est entrer dans tout ça. C'est entrer dans quelque chose de simple, de vrai, de vivant. C'est à la fois utiliser les moyens que Dieu nous donne, et uniquement les moyens que Dieu nous donne, et être ce que Dieu nous appelle à être uniquement. Et comme ça, on est libre. Quand on est ce que Dieu nous appelle à être, alors on est libre. Et le fruit de l'esprit est tout un ensemble de choses. La liste de ces 9 mentions dans Galates 5, 22 n'est certainement pas complète. Et je trouve dans cette fleur, justement, cette richesse cette variété, ces différences de ton, de consistance, de forme, etc. Et le fruit de l'esprit en nous, c'est ça, en fait. C'est tout ce qui est beau, tout ce qui est beau, agréable à ressentir, à vivre, tout ce qui est utile aussi pour nous, pour les autres. Et donc, entrer dans la liberté, c'est quelque chose d'important, quelque chose de possible, puisque la fleur, elle ne fait rien de particulier, en fait. On n'a pas l'impression qu'elle fasse d'efforts. Eh bien, nous, quand on est justement dans cette liberté, c'est là où on produit un ensemble de beaux fruits, de bons fruits. Et la seule chose qu'on ait à faire, c'est à rester dans cette relation avec le Seigneur par l'Esprit pour devenir cela. Les circonstances de la lettre, donc Paul a reçu des nouvelles des églises de Galatie, récemment fondées par lui. Donc la Galatie, c'est dans la Turquie actuelle. Si on avait une carte, je ne l'ai pas mise, on verrait donc la Turquie avec la mer Méditerranée ici, hein, le Canaan, le Liban et puis Antioche de Pisidie avec la chaîne du Taurus. Et donc toute la Turquie, ici à la Galatie, c'est vraisemblablement la province du nord de la Turquie. Il se trouve qu'au temps de l'époque romaine, la Galatie était aussi une province qui était plus grande, mais la plupart des commentateurs pensent que la Galatie, c'est cette province du nord dans laquelle Paul est allé. Et donc, il a fondé des églises en Galatie, et donc après son départ, il y a des prédicateurs qui les ont visités, des prédicateurs judaïsants qui ont justement parlé de circoncision, de rites, de lois, etc., et qui mettent l'apostolicité de Paul en doute. Et c'est pour ça que Paul est allé à Jérusalem pour rencontrer Pierre, Jacques et Jean et pour parler. Et donc, ces prédicateurs enseignent un autre évangile, voilà donc une expression de l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 6 et 7, en insistant sur le respect de la loi et des fêtes juives, ainsi que sur la circoncision. Certains membres de ces églises ont au contraire tiré de la libération apportée par l'Évangile la conclusion que tout leur était permis. Et donc, dans le passage qu'on a vu, on voit que Paul les avertit aussi en leur disant « Attention que cette liberté, hein, frère, vous avez été appelé à la liberté seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair. » Et donc, on voit qu'il y a certainement des dissensions qui règnent entre ces deux parties dans l'Église. Et puis, d'après les affirmations de Paul contenues dans sa lettre, on peut déduire le genre d'accusation lancé contre lui n'est pas un véritable apôtre. Il se réclame apôtre de Dieu. Il raconte son parcours au chapitre 1er et il a copié imparfaitement son message sur celui des apôtres de Jérusalem. On a des personnes ici qui sont mentionnés comme étant ceux qui se sont insinués pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus. Et il y a ces juifs au verset 13 qui usent de dissimulation avec Pierre. Donc il y a des confrontations et des difficultés. Alors, on a un peu fixé le décor de cette lettre aux Galates et on va voir ces questions qui m'ont été proposées. Comment peut-on dire qu'on est libre alors que Dieu nous demande d'obéir? Il me semble que de la même manière que la fleur a à être simplement elle-même, et on peut affirmer qu'une fleur n'a pas de volonté propre, mais de la même manière, nous avons à être nous-mêmes, et être nous-mêmes, c'est finalement être ce que Dieu nous propose d'être. Nous avons 10 doigts, c'est pour les utiliser. Nous avons, si on veut utiliser un moteur sans huile, par exemple, le moteur ne tourne pas, il grippe. Et donc nous avons à vivre comme Dieu nous appelle à vivre, parce que si on veut vivre différemment, alors ça ne marche pas. Donc être libre, c'est véritablement être esclave de Dieu. C'est pour ça que Paul s'appelle esclave de Dieu. D'autres s'appellent aussi esclave de Dieu, Jacques, je crois, alors qu'il est le frère du Seigneur Jésus. Et nous avons vraiment à comprendre que obéir nous amène à la liberté, et qu'être libre, ce n'est pas faire n'importe quoi. Une autre question, réflexion, moi la liberté ça me fait peur, je préfère qu'on me dise ce que je dois faire. Alors c'est vrai que la liberté c'est quelque chose qui fait peur. Parce que on préfère finalement avoir un sentier bien cadré, bien choisi, où on dit il faut que je fasse ceci, cela, etc. Et comme ça, quand on est là-dedans, alors on est sûr de ne pas se tromper. Mais ce qu'il faut vraiment affirmer, c'est que ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à être des robots. Dieu nous appelle à être sages, à être intelligents. La différence entre la sagesse et l'intelligence, la sagesse, les deux procèdent de Dieu, procèdent de la relation avec Dieu, mais la sagesse, c'est cette faculté que nous avons de comprendre ce qu'il nous faut faire par rapport au bien et par rapport au mal. Alors que l'intelligence, c'est la faculté de comprendre les choses. Je comprends, par exemple, comment est-ce qu'un recueil de chants peut être fait, ça c'est l'intelligence. Mais par contre, je suis sage quand je l'utilise, pas pour allumer la cheminée, le feu dans la cheminée. Donc, on peut être intelligent en sachant des choses, mais par contre, il faut aussi être sage en finalement sachant utiliser les choses ou en sachant vivre. Et donc, Dieu nous appelle à la liberté, Dieu nous appelle à comprendre des choses. Dieu nous appelle, la Bible est un livre intelligent ou intellectuel, est un livre qui nous pousse à poser les choses, à être convaincus et de fait à ne pas avoir peur, parce qu'on est appelé à vivre de conviction. Alors, quand on doit découvrir la liberté, on va le voir notamment dans le chapitre 4 de Galates, quand on est appelé à la découvrir, c'est vrai qu'on a un peu peur. Quand on est libre d'utiliser une sono alors qu'on ne sait pas l'utiliser, ou un ordinateur ou autre chose, c'est vrai qu'on a un peu peur. Quand on va, par exemple, se marier et qu'on n'a aucune expérience, c'est normal qu'on ait un peu peur. Mais par contre, Dieu nous appelle à découvrir ces choses, et Dieu nous appelle à les découvrir d'année en année, d'anniversaire en anniversaire, et à ne pas être étonné de passer justement de découverte en découverte. Alors oui, la liberté, ça fait peur. Mais certainement, on le verra dimanche, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Avoir peur fait partie de la vie chrétienne. Mais quand on sait que Dieu nous aime, quand on sait que Dieu nous appelle à faire quelque chose qui est juste, qui est important pour nous, mais que quelquefois on doit le découvrir au dernier moment, alors on accepte de rentrer dans ce chemin et on ne préfère pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire. On préfère finalement découvrir la volonté de Dieu au fur et à mesure de notre marche chrétienne. Les jeunes veulent être libres, pouvoir faire ce qu'il leur plaît. Heureusement, les vieux sont là pour veiller. Alors, je ne sais pas comment est-ce que cette expression a été écrite, on ne va pas faire d'enquête, mais peut-être que c'est globalement écrit par une personne qui est plutôt âgée, ou alors, en tout cas, la deuxième partie n'est pas écrite par un jeune ou une personne jeune. Bon, je crois que il y a une période qui est très 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 difficile dans la vie de l'individu, c'est la période de l'adolescence. La période qui se situe entre la puberté et le moment où on va quitter la famille. Et alors vous serez peut-être étonné que j'appelle adolescent quelqu'un qui est déjà adulte mais qui est encore chez papa et maman. Voilà, bien sûr, il faut bien mettre une limite quelque part, et pour moi, quitter la famille est quelque chose qui engage, qui fait qu'on devient vraiment autonome. Et dans cette période-là, dans le corps à la puberté, qu'est-ce qu'on prend ? On a cette faculté de donner naissance, parce qu'on devient vivant sexuellement parlant. Et bien de la même manière, à la puberté, il me semble que, nous on a eu trois enfants qui sont passés par là, que en fait la personne humaine devient capable, de la même manière qu'elle est capable de donner naissance sexuellement parlant, elle devient capable de donner naissance à un projet, et elle devient responsable. Et donc cette période de l'adolescence est une période difficile. C'est une période où on sent qu'on a des choses à faire, mais on voudrait les faire, on les fait mal, on est maladroit, on parle maladroitement, ou on parle trop, ce qu'on fait, on l'abîme, etc. Et donc, les jeunes veulent être libres pour pouvoir faire ce qui leur plaît, bien sûr. Et il faut qu'ils soient libres. Il faut que, finalement, l'adolescent croisse et que le parent diminue. Il faut que l'adolescent apprenne, en fait, la liberté. Il faut qu'il trouve ce chemin de liberté, il faut qu'il trouve il faut qu'il rentre dans cet apprentissage de la vie. Et heureusement que papa et maman sont là pour canaliser, pour être disponibles, pour aider, pour accompagner. Mais il ne faut pas à ce moment-là que les parents soient terriblement oppressants et ne permettent pas à l'adolescent de trouver justement son chemin. Mais il ne faut pas non plus que les parents ne soient pas là, parce que là, l'adolescent, il a des problèmes. Donc, les jeunes veulent être libres pour pouvoir faire ce qui leur plaît, c'est vrai. Et les personnes plus âgées, les personnes qui ont eu des enfants et qui comprennent tout cela, ils veulent que les jeunes soient libres pour faire ce qui leur plaît. Heureusement, les vieux sont là pour veiller, c'est vrai. Parfois, j'ai envie de ne plus être chrétien, je me demande si je ne me sentirai pas plus libre. Alors, c'est vrai que quand on a appris qu'être chrétien, c'est « il faut, et il ne faut pas ». Alors c'est vrai que être chrétien, on peut le résumer à un ensemble de contraintes. Mais être chrétien, c'est tout sauf ça. Parce que justement, Dieu nous appelle à vivre de convictions personnelles. Dieu nous appelle à rentrer dans une relation personnelle avec lui. Et bien sûr, peut-être que pour obtenir cette conviction personnelle, il nous faut passer par un échange de savoir. Il nous faut écouter ce que dit l'un, ce que dit l'autre, ce que dit la parole de Dieu, et puis obtenir cette conviction pour soi-même. Alors, on va commencer par dire, oui, comment est-ce que tu fais toi, ou on va lire des livres, mais Dieu nous appelle à la liberté et non pas à la mise en pratique d'un rite. Alors, quand on est éduqué à mettre en œuvre un rite, alors c'est vrai qu'on ne vit pas, parce que la mise en œuvre d'un rite, elle ne nourrit pas. Ce qui nourrit, c'est la relation avec Dieu. C'est un peu comme, par exemple, quand on fait des gravures de manière artistique, on n'est pas nourri par la seule gravure. Là où on est nourri, c'est parce qu'on sait qu'on va la donner à quelqu'un. Hein, je pense que tu es d'accord. Et c'est l'amour qui fait du bien. Et donc, l'observation du rite, ça ne fait pas du bien, ça ne nourrit pas. Hein, ça, et il faut trouver, justement, dans le fait de faire quelque chose, il faut le faire pour le Seigneur, il faut le faire avec le Seigneur, et il faut le faire les uns avec les autres. Alors, quand quelqu'un ressent qu'il n'a plus envie d'être chrétien parce qu'il se sent vraiment en prison, c'est certainement parce que il fait beaucoup de choses peut-être en tant que chrétien, mais il les fait mal parce qu'il ne le fait pas avec le Seigneur ou pour le Seigneur ou d'une manière dans laquelle il est engagé, il ou elle est engagé avec le Seigneur de manière à en tirer profit. Parce que le profit de la liberté, on l'a vu cette expression deux fois dans le chapitre 5, c'est le plaisir. Hein, vous savez, si vous venez ici par contrainte en disant je viens parce que vraiment papa et maman m'ont obligé de venir. Hein, là, j'étais... Voilà. Hein. Donc là, si on fait les choses par contrainte, on n'en a pas de plaisir, en fait. Hein, si on prie par contrainte, si on lit la Bible par contrainte, si on va régler un problème par contrainte, il n'y a rien derrière. Alors qu'au contraire, si tout ce qu'on fait, on le fait dans un plaisir personnel, on le fait dans une liberté personnelle, si je choisis de faire quelque chose, il est dit, Marie, aimez vos propres femmes. C'est un commandement, les maris, aimez vos propres femmes? C'est un commandement? Non? Oui? Peut-être? Non? C'est un commandement? Oui? C'est un commandement d'aimer sa femme. Marie, aimez vos propres femmes. Mais si nous, on rentre dans ce commandement par contrainte, alors on est misérable. Ce n'est pas une contrainte d'aimer sa femme. C'est une découverte qui peut être... Je n'ai pas dit que ce n'était pas difficile. Je vois qu'il y a des gens qui rigolent derrière. Hein? Je n'ai pas dit que ce n'était pas difficile. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il faut rentrer dans une relation. Il faut connaître son conjoint. Il faut connaître pour apprécier. C'est ça qui renouvelle l'amour. Hein? Il faut communiquer, se faire connaître, etc. Mais si c'est une contrainte, il n'y a rien de bon là-dedans. Donc, je crois que cet épître aux Galates est vraiment là pour certainement répondre, on l'a un tout petit peu vu, à un problème général de gens judaïsants, hein, soit des juifs, soit des personnes qui voulaient vraiment entrer dans la religion juive, dans l'observation de rites juifs. Et donc Paul va leur dire, mais on est justifié par la foi, on est enfant de Dieu par la foi, et on est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc il va leur dire, par rapport à leurs problèmes personnels, comment devenir libre. Nous, on va écouter cet épître et on va faire des analogies. On va regarder dans nos propres vies comment est-ce qu'on peut tirer profit de tout cela, et on va comprendre que quand on culpabilise, il faut qu'on en sorte de ça. Il ne faut pas qu'on soit justement dans cette impasse. Il faut qu'on soit dans la liberté. Dieu nous appelle à sortir de la culpabilité. Si, par exemple, nous, entre Dieu et nous, ce que nous sommes dans notre vie personnelle n'est pas clair, s'il y a des choses qui nous pèsent, s'il y a des choses qu'on a confessées mais qui restent sur nos épaules comme un fardeau, alors je crois qu'effectivement, ça ne sert à rien d'être chrétien. Dans un sens, on est sauvé, on a la vie éternelle, mais on n'en a pas le profit immédiat. C'est comme si un peu on la vivait par contrainte. On ne rentre pas dans cette liberté, justement, de comprendre qu'on n'est plus coupable. Donc il faut sortir de ça. Et il faut trouver, justement, cette liberté avec Dieu. Cette liberté dans laquelle il nous place. Nous avons été affranchis. Hein, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Être affranchi, c'est être retiré du marché des esclaves. Et puisque je ne suis plus moi, je n'appartiens plus, je ne suis plus sous la condamnation de la loi, je suis retiré du marché de l'esclavage, justement, de la loi, alors je suis gracié. Donc je ne me condamne plus. Si j'ai fait quelque chose de mal, alors je le confesse et je me vois pardonné et purifié. La Bible me dit que Jésus m'a libéré, mais j'ai quand même souvent mauvaise conscience. Alors voilà, hein, c'est exactement ça. Et donc, comment sortir de cette mauvaise conscience? C'est, je crois, littéralement, bien comprendre ce verset d'1 Jean 1, verset 9, qui nous dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Alors nous, on a appris par cœur qu'on est pardonné, mais on a appris par cœur qu'on n'est pas purifié. Et c'est malheureux. Hein, nous sommes purifiés du péché que nous avons confessé. Et le psaume 32 nous dit « Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée. » C'est-à-dire qu'en fait, il y a un bonheur dans la confession et dans la réception du pardon. Donc, j'ai mauvaise conscience. Pourquoi? Parce que je m'accuse. Alors bien sûr, je crois que personne, ici personne, n'oserait qu'on projette le film de sa vie. On n'aimerait pas que tout soit vu, que tout ce qu'on fait à tout moment, même tout ce qu'on peut penser. Mais par contre, ce que nous sommes a été purifié. Alors, si j'ai mauvaise conscience, c'est certainement parce que ça, je le crois, mais c'est pas bien clair dans mes pensées. Alors, dans l'Épître aux Galates, on va voir ça. On va voir que nous sommes les enfants de la promesse et les héritiers, et qu'on a à prendre l'héritage, justement, mais qu'il y a un moment pour le prendre. Il faut un peu de temps. Je ne fais pas ceci à cause de ce frère ou de cette sœur. Comment concilier cela ou ceci avec la liberté? Eh bien, simplement, de ne pas faire, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 8 à 10, de ma liberté une occasion de chute. Hein? Si je sais que quelque chose que je possède est une occasion de chute pour mon frère, alors je ne vais pas lui donner. Hein? Si je sais, par exemple, que mon frère ne mange pas de viande sacrifiée aux idoles, alors, quand je vais l'inviter, je ne vais pas lui dire, tu sais, je suis allé acheter cette viande à la boucherie halal. Hein, et je vais même te dire comment est-ce que le rite d'abattage de la bête a été fait. Et là, je vais le gêner. Hein, c'est ça, ne pas être une pierre d'achoppement. Je peux, moi, être libre, mais par contre, ne pas faire tomber mon frère ou ma sœur pour quelque chose. Donc, je suis, moi, appelé à être dans la liberté, mais par contre, parce que j'aime ma sœur ou mon frère, alors je vais faire attention à ne pas faire tomber ma sœur ou mon frère. Mais ces situations-là sont des situations d'exception. Quand ma sœur ou mon frère vient chez moi, je vais faire attention à ne pas le faire tomber. Mais par contre, par exemple, la vie ecclésiastique, la vie d'assemblée, l'assemblée est la colonne et le soutien de la vérité. Alors c'est dans la vie de l'Assemblée qu'on va affirmer justement ce qui est vrai et ce qui nous rend libres. On ne va pas rentrer justement, comme Pierre l'a fait, dans une démarche rituelle, dans une démarche légale, hein, et qui va faire que finalement on ne va pas oser faire quelque chose parce qu'on va avoir peur de faire tomber quelqu'un. Non, au contraire, là où il y a la colonne et le soutien à la vérité, ça c'est 1 Timothée 3,16, alors c'est là où les gens se relèvent, c'est là où on peut comprendre en fait quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu nous veut vraiment et complètement libres? Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Ne vous mettez pas à nouveau sous un joug. Voilà, je crois que les choses sont claires. On est appelé à la liberté. Dieu nous veut libres. Et donc la grande question, c'est peut-être de se dire, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas libre? Et c'est ce qu'on va voir. La liberté chrétienne est-elle parfois une liberté surveillée par les autres? Alors, surveiller, c'est veiller sur. C'est-à-dire que dans son sens étymologique, c'est fantastique. Moi, je suis très content que Bernard me surveille. Parce que j'ai besoin de lui, parce que j'ai besoin de vous, en fait. Si quelque chose n'est pas clair, j'ai besoin que vous me le disiez. J'ai besoin d'être surveillé. Mais je n'ai pas besoin, et nous n'avons pas besoin, de faux frères qui sont furtivement introduits pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus. Alors ça, c'est différent. J'ai besoin de quelqu'un qui, avec laquelle je vais avoir une relation véritable, dans laquelle les choses vont pouvoir se trouver et se dire. Quelqu'un avec qui je ne vais pas fuir. Quelqu'un avec qui je vais pouvoir me montrer, en fait. Mais si je suis avec quelqu'un qui veut me faire faire quelque chose qui relève du rite, alors il faut que je puisse moi lui dire non. Je te respecte, fais ce que tu veux toi, mais moi je ne vois pas les choses comme ça. Et à propos justement de la justice, l'Épître aux Romains parle de la justice, à propos de la justice dans les relations les uns avec les autres, le chapitre 14 nous parle des relations les uns avec les autres, eh bien il est question de ne pas être une pierre d'achoppement. Et verset 5 va nous dire que chacun soit pleinement persuadé dans sa compréhension, dans ses pensées, dans son esprit, dit la version Darby. Alors, être persuadé, c'est ça. Hein. La vie chrétienne n'est pas une liberté surveillée par les autres, mais que chacun soit persuadé, et puis si on est amené à échanger, alors on peut avoir des points de vue un peu différents. Et si on a un point de vue un peu différent, nous dit Philippiens 3,15, eh bien, dans les choses dans lesquelles nous sommes parvenus, marchons dans le même sentier. Et puis, si nous avons un point de vue différent, eh bien, en cela, Dieu aussi nous révélera quelque chose. Mais sachons justement poser, sachons attendre, sachons construire pour que Dieu nous le révèle. Alors, on va voir rapidement Pierre et Paul, ici, vous êtes un peu loin, mais je trouve toujours intéressant de voir, ce sont des icônes qui sont le plus souvent conservées par les orthodoxes, et on voit des visages. Voyez, il y a une description de Paul dans un livre apocryphe ou deutérocanonique, et il est présenté comme avec peu de cheveux, comme chauve, et puis plutôt petit, hein, et Pierre a un visage peut-être plus ouvert, plus accueillant. C'est intéressant de voir ces visages, peut-être chez Paul une détermination, chez Pierre plutôt quelqu'un qui est ouvert, bon voilà. J'ai tenu à montrer un petit peu comment Galates a été fait dans l'ensemble de la vie de Paul. Paul qui est né environ avec le début du siècle, et donc qui se serait converti environ en 33, donc c'est-à-dire environ 5 ans après la mort du Seigneur. Alors il fait un premier voyage missionnaire, et à la fin de ce voyage missionnaire, hein, donc au chapitre 13 et 14 des Actes, en fait il va écrire l'Épître aux Galates juste avant qu'il y ait ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, justement pour décider, pour traiter de toutes ces questions de circoncision, de viande sacrifiée aux idoles, du sang, etc. Et dans la même période, donc on voit Jacques, vous voyez ici comme il est représenté, hein, très, très doux, très lumineux, je trouve. Et Jude écrivent leurs lettres. Jacques et Jude sont des frères du Seigneur Jésus. Hein, à la fin de Matthieu 13, il y a quatre prénoms, hein, Jacques, Jude, José et Simon. Et il y a des sœurs au pluriel. Alors on peut penser que le Seigneur Jésus a eu au moins six frères et sœurs par la suite. Et donc ces deux lettres sont écrites à cette époque. C'est ce qu'on peut comprendre. Ensuite, donc, vous voyez que c'est 1 et 2 Thessaloniciens qui sont écrits depuis Corinthe par Paul. C'est ensuite 1 et 2 Corinthiens, puis l'Épître aux Romains, qui sont écrites d'Éphèse et de Grèce ou de Macédoine. Ensuite, il y a cette captivité à Césarée, ensuite une captivité romaine dans laquelle Paul va écrire, avant d'être relâché, ces quatre lettres. Et ici, donc, un quatrième voyage de Paul quand il est relâché, avant d'être réemprisonné pour être finalement décapité. Et c'est à ce moment-là que Paul laisse Tite en Crète et Timothée, donc, à Éphèse, et qu'il va écrire, donc, un Timothée et Tite. Et il va être emprisonné, et il va, donc, écrire deux Timothées alors qu'il est en prison à Rome. Alors que l'apôtre Jean, lui, écrit beaucoup plus tard, vers 90. Alors il y a une lettre ici dans l'ensemble des épîtres qui n'est pas représentée, c'est l'épître aux Hébreux, parce que l'auteur n'est pas dit, et certains pensent que c'est Paul qui l'a écrite, ce qui ferait 14 épîtres donc au total, mais d'autres pensent, et beaucoup, plusieurs pensent que ce n'est pas Paul qui l'a écrite, alors c'est pour ça que je n'ai pas mis dans cet ensemble. Voilà, donc Galates, ici c'est intéressant, c'est vraisemblablement là hein, que Galates a été écrit. Il y a une autre hypothèse qui est due au fait qu'on ne sait pas très bien, les historiens ne savent pas si la Galatie, c'est la province romaine, la grande province romaine, hein, qui couvrirait une grande partie de la Turquie, ou si c'est le nord de la Turquie, et suivant justement où se situe cette région. Alors, Paul sera passé dans cette région ou non, et donc il aura écrit l'Épître aux Galates à différents moments. Galates, comment situer Galates dans l'enchevêtrement des Épîtres? Je crois qu'on a déjà vu ce tableau quand on a fait les Épîtres aux Corinthiens, il y a un an, mais ce souvenir est peut-être un peu loin pour vous. Alors, je vais vous dire comment est-ce que j'ai compris comment est-ce que j'ai compris la position de Galates dans l'ensemble des épîtres et comment est-ce que j'envisage l'ensemble des épîtres comme un véritable programme de vie chrétienne, de foi chrétienne, qui est un programme complet. Alors, en premier lieu, donc cinq épîtres que j'appelle les épîtres fondamentales parce qu'elles parlent de la foi. Elles parlent de comment construire ma foi, en fait, avec le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et donc, 1 Timothée 1, 18 dit, Paul dit à Timothée qu'il lui faut garder la foi. Dans 2 Timothée 1, verset 6, je crois, il lui dit de ranimer le don de grâce qui est en lui. Dans Hébreux 10, 38, nous sommes appelés à vivre de foi. Et donc, Hébreux est une lettre qui va bien comparer la foi et la loi, et qui va montrer que dans cette grande révélation de la loi, alors la présence du psaume 110, je crois, qui parle de Melchisédek, est quelque chose de fondamental et qui montre bien que la loi devait être caduque et qu'il y avait un changement de sacrificature et un changement de loi. Et donc, en fait, on est appelé, et aussi tout le peuple d'Israël, à vivre par la foi. Dans 2 Pierre, il est question de nourrir la foi. Et toute l'épître de Pierre insiste sur la nécessité de la connaissance, du savoir, et montre ce que les ignorants font, et notamment ces moqueurs qui ignorent qu'effectivement le Seigneur Jésus va revenir. Donc nourrir notre foi par la connaissance. Et puis Jude voulait parler de notre commun salut, et il a dit, mais non, il faut que je les appelle à combattre pour la foi. Et donc il y a dans Jude un développement sur la foi, mais un développement qui nous permet de prendre conscience que la foi étant cette relation avec Dieu dans laquelle nous sommes rentrés, avoir la foi n'est pas compliqué, mais la garder est affaire de vigilance. Alors, quand nous rentrons dans la foi, nous rentrons aussi dans un combat spirituel dans lequel il y a des adversaires. Et donc, Jude aborde ce thème. Alors, 5 lettres qui parlent de fondement, ensuite 8 lettres qui parlent de vie, c'est-à-dire de vie intérieure, qui parlent de quelque chose qui va se produire en moi, et qui va se produire en moi, d'une part parce que Dieu est souverain, mais d'autre part parce que moi je suis responsable de faire quelque chose. Et donc, on va voir, par exemple, dans l'Épître aux Romains, qu'un verset clé, c'est Romains 5, verset 1, « Ayant été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Alors quand ma relation est juste, hein, si j'ai piqué le portefeuille de Benjamin, hein, je ne peux pas être en paix avec lui. Hein? Et c'est parce qu'en fait, ma relation va être juste, parce que je vais lui rendre, je vais réparer, je vais lui montrer que je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai fait. Alors là, on va retrouver la paix entre nous. Et la paix est un sentiment qui découle d'un rapport juste avec quelqu'un. Et si dans mes pensées, je ne commence pas à penser juste à l'égard de ma sœur, mon frère, mon conjoint, mes enfants et les frères et sœurs de l'Assemblée, les gens de la société, alors comment est-ce que je peux espérer être en paix avec eux? Galates, c'est donc ce que nous allons voir ce soir. Dans Philippiens, c'est une juste estimation des choses qui va nous permettre de nous réjouir. Et il y a 13 mentions de la joie dans Philippiens et qui sont là pour nous vraiment nous faire comprendre comment est-ce que nous pouvons vraiment nous réjouir dans le Seigneur. Se réjouir, c'est accorder aux choses le prix que Dieu leur accorde. Alors par exemple, quand nous passons un moment avec le Seigneur dans une détermination, une volonté que les choses soient faites pour lui, alors ça a un prix phénoménal. C'est un investissement avec Dieu et c'est quelque chose duquel je peux vraiment me réjouir. Alors si tous mes actes sont faits comme ça, eh bien, quelles que soient mes circonstances, je peux me réjouir parce que je rentre vraiment dans l'œuvre de Dieu. Dans les Colossiens, le thème de Colossiens, c'est la perfection. Colossiens 4:12 parle des prières d'Épaphras afin que nous demeurions parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Et il y a malheureusement ce proverbe, vous savez, du temps des fils d'Israël, il y avait un proverbe qui disait que les pères ont mangé des raisins verts et que les dents des fils étaient abîmées ou agacées, en tout cas, étaient irritées. Hein. Et chez nous, il y a malheureusement un proverbe qui dit que personne n'est parfait. Et je crois que presque tous, on le croit ici. Mais quand on voit Colossiens 4:12, je comprends pas comment est-ce qu'on peut continuer à dire quelque chose comme ça. Hein, afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Christ. Hein, Colossiens 1:28, le ministère de Paul est de présenter tout homme parfait en Christ. Colossiens 3:14, c'est l'amour et le lien de la perfection. Alors voilà, un programme et la perfection qui est finalement de faire simplement ce que Dieu nous appelle à faire. Alors, la perfection nous apporte la satisfaction, pas l'orgueil, hein, pas la satisfaction de la chair, mais par contre le fait d'être satisfait parce que nous avons fait quelque chose que nous devions faire. Et connaître la satisfaction, c'est aussi vraiment quelque chose qui participe au bonheur, comme l'ensemble de ces choses. Pierre est quelqu'un qui a beaucoup connu la souffrance. Et dans sa première épître, il parle de la souffrance. Dans sa deuxième épître, il parle de la connaissance. Mais dans la première épître, de la souffrance, et il parle aussi de l'obéissance. Et Pierre dit, si vous voulez, non pas être serein, parce que ce mot n'apparaît pas directement dans la première épître de Pierre, il dit, si vous voulez vraiment rentrer dans une position dans laquelle vous allez vous trouver bien, alors face à la souffrance, soyez obéissant. Et il dit, à la fin, au chapitre 5, verset 10, il dit, quand vous aurez souffert un peu de temps, hein, comme si c'était pas grand-chose. Et donc on voit ce Pierre qui a souffert, il a renié le Seigneur, il a quand même, il a été averti. C'est quelqu'un qui est là pour témoigner que oui, on peut trouver la sérénité. Et puis les épîtres de Jean nous parlent de l'amour avec une action, demeurer. Hein, le mot demeurer se trouve une quarantaine de fois dans les épîtres, il se trouve 20 fois dans les épîtres de Jean. Alors on comprend qu'on va trouver l'amour quand on connaît quelqu'un, quand on prend le temps de le comprendre, quand on prend le temps de savoir ce qu'il fait, de savoir ce qu'il aime. C'est étonnant comme nous sommes capables de passer à côté de cela, et pourtant c'est tellement simple. Alors, voilà donc Galates, il me semble, se trouve dans une série de lettres, 8 lettres, qui parlent de vie intérieure. On est appelé à rentrer dans la liberté, et puis après, il y a une série de 8 lettres qui parlent d'action. Un peu comme si je sais ce que c'est que la foi, je vais, moi, travailler à ma relation avec le Seigneur, et je vais agir. Alors, bien sûr, quand j'agis, je travaillerai aussi à ma relation avec le Seigneur, mais je vais avant tout bien comprendre que ce qui est juste, quand ce qui est juste est en moi, alors je peux ressentir de la paix, du plaisir, de la joie, de la satisfaction, de la sérénité, de l'amour. Et tout cela participe à mon bonheur, indépendamment des circonstances. Et là, on retrouve le programme du Seigneur Jésus dans Matthieu 5, le roi qui vient régner et qui a un programme de bonheur bienheureux. Donc Galates, voilà une épître qui va parler de ce besoin fondamental que nous avons de plaisir qui est lié à la liberté. Parce que là, on le revoit, dans Romains, c'est la justice qui va faire que nous sommes en paix. Je passe un peu sur les statistiques de l'ensemble des épîtres. Mais par exemple, étonnant, il y a 12 mentions de la paix, 12 mentions de la colère, 53 mentions de la justice. C'est dans Romains qu'on trouve le plus la paix, c'est dans Romains qu'on trouve le plus la colère, c'est dans Romains qu'on trouve le plus la justice. Alors quand je vis ce qui est juste en moi-même, alors je suis en paix avec Dieu, je suis en paix avec moi, je suis en paix avec les autres. Ici, c'est donc dans Galates qu'on trouvera la liberté qui va donner le fruit de l'esprit. On peut peut-être, ce mot plaisir n'apparaît pas, mais dans le Nouveau Testament, le mot plaisir apparaît, vous savez, pour qui il apparaît le plus ? C'est pour Dieu. Et donc, il me semble qu'avoir le fruit de l'esprit, toute la manifestation de l'esprit en moi, c'est important, nous sommes appelés à cela, et nous sommes à l'image de Dieu, et nous sommes faits aussi pour avoir du plaisir. Voilà donc l'estimation qui produit en moi la joie, la perfection qui produit en moi la satisfaction, l'obéissance qui produit en moi la sérénité, et le fait de demeurer qui produit en moi l'amour. Voilà, par exemple, dans Galates, c'est là où on trouve le plus cette notion de liberté. Et 9 mentions dans Galates, 8 mentions dans 1 et 2 Corinthiens, c'est-à-dire 29 chapitres. Donc Galates n'a que 6 chapitres. Donc on voit cette importance de ce sujet, de la liberté. J'aurais pu aussi mettre que le mot « loi » se retrouve beaucoup dans Galates. Et pour cause, parce que justement, il ne faut pas être sous la loi pour être libre, réellement libre. Nous allons donc voir ce thème de Galates, et dans Galates, voir 3 grandes parties. Vous savez, la division en chapitres et en versets, elle est très tardive. La division en chapitres date du XIIIe siècle, Et il y a plusieurs... j'ai entendu qu'on parlait d'un moine anglican, mais qui était à Paris. C'est difficile de savoir. On ne sait pas exactement qui est-ce qui a fait la division en chapitres. Mais par contre, la division en versets a été faite au XVIe siècle, vers 1560, 1555, par Robert Estienne, qui était imprimeur à Paris. Et sur son cheval, tout à coup, il a dit « Mais il faut mettre des versets, parce que c'est vrai que ce sera plus facile. » Et donc, il était sensibilisé à l'usage du livre. C'est vrai que ça nous facilite beaucoup les choses. Eh bien, dans Galates, on a les chapitres 1 et 2 avec 7 affirmations du mot évangile. Au chapitre 3 et 4, on a une dizaine de fois avec 7 affirmations de la notion de filiation, le fils, l'héritier, la semence. Et au chapitre 5 et 6, on a 7 fois la présence de l'Esprit de Dieu pour quelque chose. Alors, il me semble que là, on peut avoir une trame. On peut avoir un plan de l'Épître. Et donc là, on va avoir 3 diapos avec, d'une part, l'Évangile qui nous libère, d'autre part, la filiation qui nous donne capable d'être libre, et ensuite l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans la liberté. L'évangile qui nous libère de quoi? Bien sûr, de la culpabilité. La filiation qui nous libère de quoi? Eh bien, de l'incapacité de faire quelque chose. Je suis être libre, liberté en grec se dit eleutheria, et c'est un substantif qui est dérivé du verbe erkomai qui veut dire aller et venir. Être libre, c'est être capable d'entrer, de sortir, de monter, de descendre, d'aller et venir. Et donc, il faut que je sois capable d'aller et venir. Pour être libre, il faut que je sois capable. Mais ce qui me donne cette capacité, c'est que je suis, moi, héritier de quelque chose. Chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, d'accord, je suis capable. Mais encore faut-il que je sache où est-ce que je dois aller. Et donc, c'est là où on va voir la conduite de l'esprit, avec comme bouquet de fleurs, le fruit de l'esprit, c'est l'ensemble de choses. Mais avec la liberté complète, si, Galates 5, verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Donc, voilà comment, voilà ce plan. Alors, ces mentions de l'évangile qui libère, verset 6 du chapitre 1er, je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent qui n'en est pas un autre. Et donc, évangile, euangelion en grec, euangelion, e c'est bon, angelos, c'est le message ou le messager. Donc, évangile veut dire bon message. Et donc, il n'y a pas deux évangiles, en fait. Le bon message, c'est que nous soyons justement délivrés de ce qui nous oppresse. Et qu'est-ce que c'est que la religion dans le monde entier? C'est la, d'une manière générale, la tentative de l'homme de sortir de ce qui l'oppresse, c'est-à-dire essentiellement de son imperfection et de sa crainte de l'au-delà. Et donc, les religions veulent répondre à tout ça. Mais en quoi est-ce que la foi chrétienne répond magistralement? C'est que c'est la seule révélation, le seul livre sacré qui va nous dire effectivement qu'il n'y a plus de culpabilité parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que celle que nous soyons libérés de la culpabilité. Et donc, Paul s'étonne de ce que les Galates passent si promptement. De celui qui les a appelés par la grâce de Christ, en fait, a un évangile différent qui n'en est pas un autre, puisqu'en fait, se replacer sous la loi, c'est retomber sous la culpabilité. Donc, voilà une première mention qui montre tout de suite à la fois le contexte dans lequel Paul se trouve, mais aussi cette libération de l'évangile. Mais il y a de fausses bonnes nouvelles. Quand nous-mêmes ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait, outre ce que nous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Alors, pour toutes sortes de raisons, et notamment pour ce que montre Jude à propos du combat spirituel et de la foi, mais à propos de ce que montre l'Épître aux Éphésiens, je ne vous ai pas parlé en détail des actions pour ne pas prendre trop de temps, mais on pourra en parler à l'occasion si vous voulez. Il y a un combat spirituel, nous sommes dans un monde invisible et il y a un combat. Dieu a fait les choses difficiles. Alors ici, ce n'est pas la peine que quelqu'un dise que c'est difficile, parce que tout est difficile. Mais tout est difficile parce que tout a de la valeur. Donc, dès l'instant où j'ai posé ces choses-là, puisque tout a de la valeur, alors ce qui est difficile, ben oui, je l'aborde. Je veux l'aborder avec détermination parce que j'ai envie de quelque chose qui est difficile, puisque j'ai envie de ce qui a de la valeur. Qui est-ce qui acceptera un cadeau qui n'a pas de valeur, en fait? Qui est-ce qui voudrait s'acheter quelque chose qui n'a pas de valeur? On a tous envie d'avoir quelque chose qui a de la valeur. Alors, il y a de fausses bonnes nouvelles. Il y a des ennemis, il y a des adversaires. Satan veut dire adversaire. Diable veut dire diviseur. L'évangile, il a une bonne origine. Je vous fais savoir, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme, car moi je ne l'ai pas reçu de l'homme, non plus ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. C'est ça, en fait, qui fait aussi la valeur de la libération dont nous sommes les objets. C'est ça qui doit me faire rester, en fait. Si j'étais tout seul sur une île déserte sans aucun livre, quels sont les éléments qui me pousseraient à être sauvé? D'une part, la création, qui me parlerait de la gloire de Dieu, de sa puissance, de son amour, parce qu'il crée des choses variées, et aussi la conscience qui me reprend. Parce que même seul, j'aurais des attitudes intérieures au sujet desquelles je me condamnerais. Donc en fait, ma planche de salut serait à ce moment-là d'être dans cette relation au vrai Dieu, de recevoir ce qui est de la bonne origine. Alors, mention suivante de l'Évangile, chapitre 2, verset 2, je leur exposais l'Évangile que je prêche parmi les nations. Et j'ai dit ici, l'Évangile, c'est un exposé. Si par exemple, demain, voilà, je ne vais pas citer de prénom là, des gens que je connais, mais hein, si quelqu'un rencontre dans la rue, quelqu'un qui lui dit, s'il vous plaît, madame, monsieur, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que l'Évangile? Hein? Alors, est-ce qu'on peut exposer ce que c'est que l'Évangile? Est-ce que nous, on a pris du temps pour poser un exposé? Est-ce que c'est clair dans notre tête? Et si ce n'est pas clair dans notre tête pour le dire à quelqu'un, il y a de fortes chances que ce ne soit pas clair pour nous. Et donc, si on veut vraiment être libéré par l'Évangile, alors je crois qu'il faut prendre le temps, la peine de savoir ce que c'est. Là, Paul leur dit aussi, ensuite, afin que la vérité de l'Évangile demeure avec vous. Je crois qu'on est appelé à vérifier concrètement, pratiquement, quel que soit notre âge, que l'Évangile répond à nos besoins. Alors, ce qu'on peut faire, ce n'est pas très compliqué, il suffit de faire un peu la liste de tout ce qui ne va pas. Et quel que soit notre âge, de dire, bon, alors soit je le fais tout seul, soit je le fais avec quelqu'un, hein, mais si je fais la liste de ce qui ne va pas, quelle est la réponse évangélique à mon problème? Et si je fais ça, alors il y aura vraiment une vérité de l'Évangile. L'Évangile n'est pas seulement vrai parce qu'il est parole de Dieu, il est vrai parce qu'il est vérité en nous-mêmes. Il est vrai parce qu'il nous correspond, il est vrai parce que quand on le reçoit, alors il se passe quelque chose de vrai et quelque chose qui nous fait du bien.